Entrez sans frapper sur la première.
Et on a rendez-vous maintenant, comme souvent le vendredi, avec notre ami Joseph Skovenek. Bonjour Joseph.
Bonjour Jérôme, bonjour à tout le monde. Je vous l'avoue, je peux essayer de me raisonner à longueur de journée, rien n'y fait. Je reste fasciné par le sombre éclat des siècles troublés du Haut Moyen-Âge. Le Haut Moyen-Âge, ces temps où d'obscurs rois, avec des noms archaïques, luttaient pour la survie dans des contrées dont on a oublié l'appellation depuis longtemps. Pendant que presque tout le monde guerroyait pour sa survie immédiate, une poignée de figures sortant de l'ordinaire avaient consacré leur vie à l'étude. Et c'est d'eux que nous tenons les rares indications historiques sur ces âges sombres. Dans la confuse proto-histoire anglaise, ou plutôt ce qui était l'histoire des Angles, des Jutes, des Saxons et autres frisons, une figure surnage dépasse de très loin toutes les autres, celle de Bède. Par respect, on le surnomme généralement, et ce depuis le 9e siècle, Bède le Vénérable, Beda Venerabilis. Lui-même, dans les très rares allusions qu'il se fait à lui-même dans ses œuvres, se surnomme plutôt Beda Famulus Christi, Bède, serviteur du Christ. Pendant mon adolescence et jeunes années, je croyais être le seul au monde à être encore hanté par cette figure plus qu'ancienne, jusqu'à ce qu'on me rapporte qu'un camarade autiste, celui qui a consacré sa vie à écrire Wikipédia en vieil anglais malgré des conditions d'existence catastrophiques, eh bien, que lui aussi partage de toute évidence la même passion. C'est simple, par rapport aux mœurs brutales et à l'ignorance de son temps, Bède paraissait presque relever d'un autre monde. Les choses avaient très mal commencé pour lui, il était orphelin dès la petite enfance, il a été recueilli par un saint homme, lui-même fort érudit, et le reste de sa vie fut entièrement consacré à l'étude. On pourrait presque résumer sa vie par la même tournure que celle qu'un biographe malicieux avait utilisée pour esquiver la redoutable tâche de relater la vie d'Emmanuel Kant. De sa naissance à la mort, nul événement ne va perturber ses études, c'est bien dit. Le plus souvent, on ne voit en Bède que l'historien. L'Église catholique l'a décrit comme théologien, ce qu'il ne fut qu'accessoirement à la marge. Dans ses ouvrages, Bède ne privilégie pas le clergé au détriment de, par exemple, les laïcs. Et même dans les quelques oraisons que l'histoire a conservées, ce sont plutôt des exégèses de textes sacrés que l'on observe plutôt que de grands systèmes théologiques. L'érudition de Bède était à peu près sans limite. Il semblait s'intéresser, si j'ose dire, avant tout au sujet qui passionne mes camarades autistes d'aujourd'hui, avec un goût du détail absolument bluffant. La météorologie, la physique, la grammaire, les énigmes diverses. L'univers onirique de Bède était fait non pas des guerres sanglantes ou incessantes de son époque, mais de la littérature gréco-romaine classique qui semblait ruminer en permanence. Il était en quête désespérée du beau, il a fait usage de toutes les ressources de son esprit pour créer des poésies en vers comme en prose, et ce dans les diverses langues qu'il maîtrisait, à savoir l'anglo-saxon, le grec, mais surtout la langue qui devint sa langue de cœur, à savoir le latin classique. Quand j'étais étudiant et avais suivi divers cours d'introduction à l'histoire, on m'avait dit que les historiens contemporains faisaient une analyse réfléchie et rationnelle de l'histoire, alors que les historiens, par exemple du Moyen-Âge, n'y comprenant rien, ne faisaient que des compilations semi-mythiques de données sans queue ni tête. En réfléchissant à Bède, je me dis que la vérité pourrait bien être tout à fait ailleurs. L'histoire sous la plume de Bède le Vénérable n'est nullement naïve. C'est l'histoire, telle que nous la disent de nos jours encore, les enfants et adultes autistes passionnés par ce type de sujet, avec ce nombre invraisemblable de détails, de données chiffrées et de dates. Mais plus intéressant encore, Bède, loin d'être un affabulateur qui transformerait les faits selon ses lubies, ses envies ou les commandes de son supérieur hypothétique, s'avère être un un esprit rationnel, redoutablement juste, autant dans les faits exposés que dans les analyses, d'où mon hypothèse provocatrice. Et si la façon ancienne de faire de l'histoire factuelle et axée sur les détails était non pas naïve mais autistique, les non-autistes de l'époque s'étant consacrés à autre chose qu'à l'érudition, on se demandera quel fut le secret de cette longue et paisible vie dans des âges troublés. Quel était le secret du bonheur de Bède le Vénérable ? Il nous le dit lui-même. À la fin de sa magistrale histoire de l'Angleterre, il prend brièvement la parole à titre personnel pour glisser pudiquement quelques secrets. Écoutons ces mots qui nous viennent de d'autres âges. Atque inter observantiam disciplinae regularis et quotidianam cantandi in ecclesia curam semper aut discere aut docere aut scribere dulce habui. Et dans l'observance de la discipline régulière, en pratiquant tous les jours le chant, constamment, je pris plaisir à étudier, à enseigner et à écrire. Que vouloir de mieux dans notre vie ?
Ah, c'est une bonne question. Merci Joseph.
Très belle journée à tout le monde.